Je vous remercie d'être là et d'écouter un petit peu ce que j'ai à relater, à évoquer. C'est pas facile, c'est vrai, comme dit René, de témoigner. Témoigner est aussi une forme de mise à nu à chaque fois. Et voilà, donc vous m'excuserez si j'ai beaucoup d'émotions parfois ou des trémolos. Mais en tout cas, c'est de tout mon cœur que je fais ce témoignage en toute humilité et en vérité avec Jésus et Marie. Sans eux, je ne serais pas là. Avant toute chose, je vous présente mes excuses aussi si mon témoignage pouvait peut-être offenser certains d'entre vous, parce que c'est vrai qu'un témoignage c'est une subjectivité, c'est une prise à partie, donc on n'est pas tous dans les mêmes dimensions, mais en tout cas voilà moi ce que je vais relater. Témoigner, témoigner, me répète Marie trois fois. Au commencement, nous dit Jean, la parole s'est faite chair, pleine de grâce et de vérité. C'est le passage qui m'a toujours guidée depuis que je suis petite. Et tout a commencé à la mort de mon père quand j'avais 7 ans. À cette période-là, je viens d'une famille modeste, populaire. Parfois, j'ose même dire, et ce n'est pas faute de le dire, mais que si vous connaissez les œuvres de Zola, eh bien, voilà, c'est un peu Zola ma vie aussi. C'est même beaucoup. Et quand papa est mort, je me vois à ses côtés, il est allongé sur la table parce qu'on veille les morts pendant 7 jours chez nous, dans les villages. Et j'ai eu un appel de Marie, mais j'étais la seule à être chrétienne chez moi. Maman, elle est comme ça, quoi. Elle croit en Jésus et Marie, mais voilà. Et ma sœur est très cartésienne aujourd'hui, mais étant petite, il fallait pas lui parler de tout ça. Et moi, j'étais avec Marie déjà à cette période-là, et ça s'est vraiment révélé à moi le jour de la mort de papa. Et là, j'ai compris que les mots, dire des mots, c'est les ancrer en soi. J'avais déjà une expérience très particulière avec Marie depuis l'âge de mes 7 ans. La foi m'a toujours permis de m'accrocher. On regarde l'humilité de Dieu, on est que ça au départ d'une vie, et moi c'est comme ça que je me suis construite avec eux. Alors je m'appelle Ingrid Muller, j'ai 48 ans, 2 enfants, je suis un prof de lettres depuis 28 ans, maintenant directeur des études sur Saint-Jean à Boulogne. J'ai eu une vie très éclectique, des enseignements très éclectiques, des diplômes nombreux, mais tout ça vous voyez finalement d'enfants, c'est rien du tout. J'ai une fille qui a 22 ans, j'ai un garçon qui a 12 ans qui est au foyer de charité à sa demande depuis l'âge de ses 5 ans. Il voulait prier Jésus et Marie, m'a-t-il dit un jour. Mon mari est chrétien, il écrit des icônes religieuses. Il est chrétien comme il le peut, il s'accroche, il fait un métier qui est complètement opposé à sa vision du monde. Et on est mariés depuis 30 ans. Voilà. On est un couple engagé, on est dans la prière. Malheureusement, pour le moment, on ne fait pas encore partie de communautés religieuses, mais j'avoue que depuis l'accident, c'est une attente et presque un besoin vital, je crois, que je nourris à l'intérieur de moi. C'est une des conclusions que je fais en relecture de vie à ce jour. 4 octobre 2020. 10 mois avant. Renversée, percutée par une voiture, à ce jour, on sait qu'elle roulait à 35 km/h. J'ai 12 côtes cassées, 3 hématomes sous duro, dans le ventre, dans les ovaires. Le côté gauche est complètement atrophié, je suis hémiparésique. J'étais hémiparésique. L'orbite oculaire et l'arcade sourcilière ont été explosées. Au cas où, il pourrait y avoir des personnes qui, voilà, qui se diraient, bah tiens, toutes les photos de ce que je vous dis sont dedans. Je ne l'ouvre pas en faisant le témoignage parce que vous pouvez imaginer au combien c'est une épreuve difficile. Les ovaires abîmés, le côté gauche atrophié, on voyait la mâchoire, on voyait les dents parce que la voiture avait pris tout mon côté droit. Ça ne se voit plus au bout de 10 mois. Le médecin chirurgien à qui je rends grâce aussi m'a opéré de là jusque là avec des plaques et des fils de fer. Ça va de là jusque là. Disons que si je vais dans un aéroport, je vais sonner partout. Donc, du coup, voilà, c'est d'une violence telle qu'ils se sont dit, les médecins de Lille ont dit à ma famille, elle aura des séquelles au niveau de l'œil. La cicatrice, là j'ai un témoigné aux enfants, j'ai pris Joseph à témoin et j'ai dit, tu peux regarder là, et la cicatrice elle passe à la pointe de l'œil. Je vous dirai en conclusion tout ce qui reste, hein, comme séquelles ou pas. Donc vous êtes renversé, vos côtes sont tellement explosées qu'en réalité vous n'êtes pas transportable par les pompiers. Hélicoptère, c'était peut-être la première fois de ma vie que je prenais un hélicoptère sans le savoir réellement à ce moment-là, même si j'entendais déjà tout, hein, j'étais pas encore plongée dans le coma. J'entendais tout, tout et tout. Alors l'hélico, ça fait un bruit, ouf, ah, vous vous demandez ce qui se passe, hein, puis vous souffrez. Jusque-là, c'est comme ça. Vous êtes héliportée donc à Lille. Ma fille avait dû me reconnaître parce qu'elle était à la maison. Dans mon portable, il y a ma carte de sécu. C'est à la maison qu'ils sont venus pour dire, voilà, on a retrouvé une dame par terre dans un sale état, il faudrait venir l'identifier. Mon mari travaillait à Boulogne ce dimanche-là. Ma fille y va, mon petit garçon qu'elle essaye de repousser, mais on peut imaginer qu'un enfant dise, non, Anne-Charlotte, je vais aller avec toi, m'a vue. La médecin du SMUR dans l'hélico était en train de me masser. Hein. J'avais fait un premier arrêt cardiaque dans le fossé, premier arrêt cardiaque. Elle me masse, le maire de Samé, j'habite à Samé, qui m'a appelé il y a quelque temps pour qu'on se retrouve, pour qu'on voit, il voulait peut-être me dire bienvenue, quoi, bon retour. En tout cas, il n'en revenait pas de l'état dans lequel j'étais actuellement. Et il m'a dit, quand un hélico vient dans votre région, le maire doit être présent. Il a fait des photos d'hélico et il me dit, la médecin nous disait que vous alliez partir, quoi. Vous alliez mourir. C'était, la dame va pas revenir. Tout en massant, la dame va pas revenir. Mon petit garçon de 12 ans devant ma fille de 22 et les pompiers, le maire, enfin voilà. Voilà pour l'histoire de l'accident. On me plonge dans le coma artificiel. Et là, si tout le monde croit qu'on dort dans le coma, si les gens pensent qu'on ne bouge pas, parce que forcément, j'étais attachée pieds et mains, liée, le buste aussi, avec les côtes cassées, non, mais ils essayaient vraiment que je reste calme, quoi. Et j'entends tout, même dans le coma, j'entends tout, tout de ce qui peut exister. Je vois le monde médical autour de moi s'affairer, boum, boum, je vois ma fille avec son dizainier qui essaye de prier pour moi, je vois mon mari. Et dans ce coma que je peux qualifier de peu ordinaire, de temps en temps, je regarde mon amie Sophie parce que elle connaît tout, elle m'a vu à Berck il y a très très longtemps maintenant, mais au cas où j'ai besoin d'avoir, c'est vrai que j'aime bien qu'il y ait Sophie ou Stéphane avec les ados parce que c'est pas facile de témoigner. Je sens tout, absolument tout, c'est une horreur. C'est une souffrance sans nom, en fait, ce que j'ai vécu dans le coma. Je vois mon corps qui est allongé, les tuyaux de partout, photo à l'appui, bien sûr, les gens qui pleurent, le corps médical qui essaye de me sauver, le rythme est très rapide, et je comprends très difficilement ce qui se passe à ce moment-là. Il me plonge dans le coma et pfiou. Vous montez, alors j'appelle ça la figure de l'ascenseur, je me suis fait aider, d'ailleurs je crois que c'est Sophie qui m'avait aidé à mettre le mot un ascenseur, parce que j'ai fait 5 arrêts cardiaques, en un mois dans le coma, 15 jours en réa, 5 arrêts cardiaques, chaque arrêt cardiaque, à chaque tentative d'essayer de me réveiller, je vais vous dire après comment c'est le réveil, je revivais l'horreur parce que le corps physique devait descendre dans le corps. Le corps à côté, que je ne sais pas si c'est le corps spirituel ou le corps devait réintégrer le corps physique. Et là, j'ai vraiment beaucoup souffert à chaque fois. Et donc, dans le coma, vous êtes plongé, vous entendez tout et vous êtes dans la vie à côté. En fait, on dit notre Père qui êtes aux cieux, Mais moi, le monde, il est à côté. Le monde de l'au-delà, il est à côté. Je dis même pas au-delà, je dis à côté, parce que je voyais tout en étant pas très haut par rapport à mon corps physique. S'il y avait 5-6, je peux pas encore bien lever la main gauche parce que je garde des séquelles de l'hémiparésie, mais voilà. Si là, c'est haut, eh bien, on imagine deux fois comme ça. C'est quoi, 5-6 mètres de haut? Et je voyais mon corps physique sur le lit avec tous les tuyaux insufflés, ventilés. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'entendais tous les pleurs. J'entendais vraiment que le Seigneur prenne soin d'elle. Mais la personne qui, je sais, que j'ai ressenti dans mes tripes, c'est vrai qu'on est fusionnel, mais c'est ma maman, quoi. Une maman qui... Parce qu'à l'époque, c'était... Enfin, je sais pas, c'est peut-être encore comme ça maintenant, mais une heure, une visite à Lille. Et en réa, on n'a pas le droit de venir vous voir. Enfin, sauf le mari et votre fille. Et votre maman, à la demande de mon mari. Et puis ma sœur, parce qu'elle est dans le médical. Mais sinon, c'était très réduit. Et alors là, vous vous dites, le rythme est tellement rapide, vous comprenez que vous avez franchi le passage, vous comprenez que vous êtes à côté, entre la vie terrestre et la vie à côté. Tout se bouscule. Alors à droite, il y a un monde noir où les gens essayent de... J'ai donné l'image quand j'ai raconté tout ça à d'autres personnes avant, à des prêtres et à des amis de confiance et de cœur, à des communautés, parce que c'est vrai que vous vous dites, bah, c'est normal tout ça, ou... Enfin, on peut quand même douter. Et du coup, vous voyez à droite tous ces gens qui hurlent, qui pleurent, qui essayent de se débattre, ouais, je parle de sable mouvant parce que je sais pas quoi dire d'autre en fait. Il y a très peu de mots équivalents à ce qui se passe à côté. Même pour l'amour, j'en parlerai après. Mais et donc là, avec mon amie, elle m'a fait prendre conscience, et en relecture, c'est vrai, en relecture même de l'Évangile et de d'autres textes, oui, c'est le purgatoire. C'est le purgatoire. Quand je suis montée, quand j'ai été dans le coma, plongée dans le coma pour m'endormir, première étape, je vois à droite le noir, j'entends tous ces gens qui hurlent. Ensuite, ça c'était le premier réveil. Vous voyez des silhouettes, vous voyez qu'elles veulent s'extraire de là, mais elles ne peuvent pas s'en sortir. À gauche, donc à l'opposé, une main avec des longs doigts, très fins, je me souviens encore, avec des ongles très fins. Donc vous êtes, je me permets de me mettre debout, mais vous êtes là, vous comprenez pas. Donc à droite, vous entendez ça et vous avez mal partout, vous entendez des cris. Et à gauche, il y a quelqu'un qui vous tire comme ça, assez vivement. Et ma grand-mère me tire, ma grand-mère maternelle qui avait des longs ongles, des longs doigts, une longue main, me tire vers le côté clair. Alors, je ne sais pas de quel côté je serais allée s'il n'y avait pas eu cette main, parce que vous savez, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Hein. Elle me tire sur la gauche, et là, donc elle me regarde avec beaucoup d'amour, c'est tout, ça s'arrête là. Mais quand même, elle m'a extraite de ce côté-là. J'arrive, et je suis dans un monde ouf. Éthéré, pur, un monde magnifique, magique, un monde où vous sentez pas le corps physique, vous sentez rien du tout. Il y a ma grand-mère, il y a mon père qui est mort à l'âge de 7 ans, c'est pour ça que je partais de lui. Il y a mon père qui est là, et ça j'ai toujours senti qu'il était présent dans mes tournants de vie, dans mes épreuves. Je sais que c'était une figure pour moi. Et il était là, et tous m'ont dit, ce n'est pas ton heure. Alors je comprends absolument pas tout ce qu'on me dit, hein, sur le coup. Mais en tout cas, je suis bien. Et puis alors moi, je profite. Il n'y a pas de mots, tout se vit. Vous êtes enveloppé d'un amour extraordinaire, d'une chaleur extraordinaire. C'est un blanc, on pourrait me dire, bah Ingrid, quand même, t'es prof de lettres, blanc, tu sais le dire, blanc. Eh bien non, je ne sais pas le dire, c'est pas le blanc d'ici, c'est un blanc ouaté, un blanc chaud, un blanc qui vous caresse, un blanc ou une atmosphère qui vous porte et vous sentez que vous êtes bien, quoi. Et là, ensuite, vous avez l'impression que tout est réel. Tout est réel. Là, vous savez que tout est réel. Mais vous savez aussi, parce que vous entendez les gens pleurer, vous entendez votre mari qui crie, parce que c'est ma fille qui a plutôt géré mon mari au début. Il avait perdu, moi, lui, il est orphelin aussi, il vient des mêmes milieux que moi, l'orphelin des deux parents. Il a fait comme il a pu pour s'en sortir. Mais heureusement que ma fille, normalement, c'est pas aux enfants, mais c'est la plus cartésienne. C'est peut-être pas pour dire, mais elle est en médecine, alors peut-être que c'est pour ça aussi, que j'en sais rien, mais c'est elle qui a porté mon mari et mon fils pendant les quelques premiers jours. Mais lui, il hurlait, quoi, de partout. Il essayait de faire pour que tout se passe bien, en tout cas. Et j'entends ma fille, je la sens là, je la sens je sens intrinsèquement leur tristesse, leur désarroi. Et toutes les prières résonnent. Elles résonnent en moi comme si c'était ça qui allait me sauver. Et oui, c'est ça qui me sauve. Parce que je souffre tellement, je crie, je hurle, mais personne ne m'entend. On peut imaginer le corps physique qui bouge pas. Bah oui, forcément, j'étais dans le coma, j'étais extrêmement avec des médicaments anesthésiants. Et la petite parenthèse, veuillez m'excuser, des fois je fais cet ascenseur dans mon témoignage parce que si je le structure, c'est... Je veux pas trahir le moindre mouvement que j'ai vécu pendant ce mois-là, alors je respecte tout dans l'ordre quasiment de ce que j'ai vécu. Veuillez m'excuser si ça manque un petit peu de chronologie, j'ai essayé d'articuler, mais bon. Et le réveil, faut que vous sachiez, peut-être que vous le savez, mais moi je le savais pas, et personne de ma famille, pour faire un réveil quand on est dans le coma, il vous retire pendant 24 heures les produits anesthésiants, pour que le corps lui-même revienne à lui. Sauf que, quand vous avez 12 côtes cassées, 3 hématomes sous-dureaux, une chirurgie digne d'un chef-d'œuvre, c'est des actes chirurgicaux qui ont demandé beaucoup d'heures, des arrêts cardiaques que j'avais déjà fait, j'ai perdu énormément de litres de sang, j'ai été transfusée du début à la fin de toute façon. On peut imaginer que ça puisse être en tout cas très difficile. Donc le premier réveil, ils entament ce qu'on appelle le premier réveil. Ils disent à ma fille, ils l'appellent, elle habite Lille, voilà mademoiselle, on va réveiller votre mère. Mais ma fille, tout 22 ans qu'elle a et tout en médecine, elle n'avait peut-être pas appris ce qu'ils allaient faire. Ils n'avaient pas prévenu ma famille qu'ils allaient me décédater. Donc ils n'ont pas non plus prévenu que ça pouvait être un échec. Donc ma fille, elle appelle tout le monde, ils ont même fait un groupe WhatsApp maman, jour par jour, celui qui allait me voir témoigner, elle appelle, voilà, maman, elle va être réveillée, contente, donc elle y va, elle va sur l'île, c'était elle qui était sur l'île ce jour-là, elle assiste à mon premier réveil, elle sort, elle est traumatisée. Premier réveil, deuxième arrêt cardiaque, puisque le premier était dans le fossé, deuxième arrêt cardiaque, et les machines qui hurlent de partout. Mais moi, je le vois, ça. Je le vois là-haut, que tout se passe comme ça. Et je leur dis, n'insistez pas, je veux mourir tellement j'ai mal. Là, le mot souffrance, quand je le disais, je parle pour moi, attention, c'est vraiment... Et veuillez m'excuser de ne pas trouver toujours les mots, mais le mot souffrance, il est faible sur Terre, par rapport à ce que peut-être on peut souffrir. Là-haut, en tout cas, quand moi j'étais dans cette épreuve-là, je ne trouve pas de mots suffisants pour dire le blanc, pour dire la souffrance et même pour dire l'amour, j'en parlerai après. Mais la souffrance, elle était telle que je n'attendais que ça de mourir. J'essayais de me battre, j'essayais de crier « Philippe, mon mari s'appelle Philippe, Philippe, Philippe !» Je hurlais « Maman, maman !» Mais... Bon, voilà, c'est comme ça. Personne ne vous entend, vous êtes seul face à vous-même, vous êtes dans une nudité totale, une nudité de soi. Vous relisez votre vie dans votre tête. Alors moi, je tenais toujours ma tête. Ingrid, réfléchis, je tenais ma tête, même si dans le corps physique, j'étais attachée, mais je tenais ma tête. Ingrid, réfléchis. Je suis quelqu'un de trop cérébral, je crois. Mais en tout cas, heureusement que j'ai tenu ma tête, c'est peut-être pour ça que j'ai plus d'hématomes, j'en sais rien. Mais j'essaye de positiver, vous voyez, vous m'excusez aussi, cette attitude parfois. J'essaye de positiver, de transfigurer le négatif en positif. Mais voilà, c'est vrai que... Le premier réveil, arrêt cardiaque, ma fille est là, tout sonne de partout, les infirmières lui disent de partir, non, je veux voir maman, me dit-elle, et du coup, en réalité, ils ont dû me replonger dans le coma. Premier réveil, deuxième réveil, troisième réveil, quatrième réveil, cinquième réveil, échec, arrêt cardiaque. Et vous entendez tout, mais vous ne pouvez rien faire. Parce que personne ne vous entend, vous comprenez que vous êtes, ce que je vais dire, le paradis, vous avez vu l'enfer, vous avez entendu ces gens. Quand on dit qu'il faut prier pour les âmes, oh oui, qu'il faut prier pour eux, parce qu'ils ont besoin de notre aide pour essayer de monter en tout cas. Et du coup, vous vous dites, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, vous savez, à chaque réveil, vous décédate. Donc, c'est la même chose. Une souffrance telle, vous replongez dans votre corps physique. J'ai dit aux enfants, c'est comme, j'ai été maître nageur à côté, vous voyez, quand vous, chou, vous plongez à chaque fois dans le corps physique. Vous êtes là où vous êtes bien, vous ne sentez pas vos douleurs à ce moment-là. Et chou, vous retombez dans le corps physique. Et là, vous n'y arrivez pas. Donc, moi, je disais, ben, stop. Je disais stop à chaque fois à Marie, et je priais dans ma tête, je priais. J'ai toujours mon chapelet, même à l'hôpital, ils ont dû me prendre pour une... Mais j'ai grainé parce que j'étais en fauteuil roulant pendant 5 mois. Et dès que j'ai pu mettre un pied devant l'autre, je disais... je me mettais debout, je voulais faire tout toute seule, le plus possible en tout cas. Parce qu'en fait, on est seul dans les grandes épreuves, malgré tout. On peut être profondément seul à l'intérieur de soi, sauf quand on a Jésus et Marie. Mais j'avais mon chapelet symboliquement dans ma tête et je faisais mes prières. Et vous vous dites là, à ce moment-là, abandonne. C'est là où j'ai tout abandonné. En fait, quand on dit que la prière, elle est puissante, mais maintenant, à ce jour, je peux dire qu'elle s'est faite chair. Et je sais que c'est un trésor d'éternité. Non pas que je cherche l'éternité, vous comprenez, c'est pas ça, c'est... Elle est là, cette prière, elle vous donne cet accès au monde. Alors, les docteurs tentent le 6e réveil, juste... Ah ouais, c'est vrai, je l'ai écrit, j'ai tout écrit, parce que quand j'étais à Berck, hein, j'écrivais tant bien que mal, j'avais perdu aussi l'usage de la main droite. Oui, c'est vrai, il y a ça. Ma famille avait dit, bon ben écoutez, là, il va falloir faire une trachéotomie. On ne pourra pas entamer le 6e réveil sans la trachéotomie parce qu'elle n'a pas assez de force pour respirer par elle-même, pour revenir. Donc, imaginez que j'entends tout, que je vois tout et tout le monde. Après, je vous dirai. Alors, vous dites, allez, il va falloir y retourner. Mais moi, je pleure encore, je crie, je supplie Marie. Je supplie tellement Marie. Et là, je dis, alors, ce qu'il faudrait que je pose mon... Peut-être vous allez m'entendre quand même sans... Oh là, non, pardon, je vais essayer de le garder. Mais vous savez, vous êtes là, vous vous abandonnez parce que vous avez souffert un martyr sans nom. Et vous dites, Marie, fais-moi mourir. Fais-moi mourir, Marie. J'ai supplié Marie de mourir. Et je peux mourir là, maintenant, devant quiconque, au cas où ce que je dirais est erroné. Marie est arrivée, a pris mon avant-bras. Elle m'a fait une caresse sur l'avant-bras, comme ça, une seule. Elle avait mon avant-bras dans sa main, d'une bienveillance, d'un amour sans nom. C'est quand je vous disais les mots qui n'ont pas de sens sur terre. En fait, elle a été d'une... Elle m'a dit, ce n'est pas maintenant, Ingrid. Témoignez. 3 fois, elle a dit ce mot-là, à voix basse, pas fort, quoi, douce, la douceur même, la sagesse même. Et j'ai dit, Marie, j'en peux plus, Marie, fais-moi mourir, je n'y arriverai pas. Et en parallèle de la venue de Marie, alors, c'est vrai que depuis toute petite, c'est Marie, moi, qui m'a toujours conduite. On dit qu'on va à Jésus par Marie. Parfois, on me dit, t'as vu Jésus? T'as vu le Christ? Non, je peux pas. Non, j'ai pas vu. Mais j'ai vu Marie. Déjà, ça, c'est ouf. Vertigineux. C'est... En réalité, Dieu gère tout. La toute puissance du Saint-Père, on en est là. Marie me dit, ce n'est pas maintenant. Et moi, je ne comprends. Enfin, on comprend quand même pas tout ce qui se passe quand même. Hein. On se dit, waouh, où je dois aller? Enfin, à part l'abandon, je me suis complètement donnée à Marie. Complètement. Et j'ai dit, tu fais de moi ce que tu veux. Parce que j'en pouvais plus, en fait. Et j'ai dit, aide-moi à ne plus avoir mal. C'était ça ma demande à Marie. Et j'entends en parallèle toutes ces volutes de prières. Je sais que beaucoup de personnes que je connais, voire que je ne connais pas, qui appartiennent à des groupes ou pas, ou tout à chacun dans son... J'ai eu énormément de prières, ça m'a été dit après. Tout ça, ça je le sais après. Mais... Et j'entendais toutes les prières des gens. Et comme, vous savez, comme si c'était des volutes. Une spirale qui vous porte. Alors vous êtes... Vous êtes avec Marie, que demander de plus? Vous avez passé un mois, 5 réveils échoués, 5 réveils où vous avez souffert le martyre. Et vous vous dites, là je m'abandonnais, moi, peu importe de ce qui m'arrivait finalement à ce moment-là. Et Marie m'a dit, non, c'est pas ton heure. Et c'est là qu'elle a susurré, murmuré 3 fois le verbe témoigner, témoigner, témoigner. Et au 6e réveil, avant même que la trachéotomie ne se fasse, où ma sœur cartésienne, ma sœur qui ne faut pas trop, voilà, que j'aime de tout mon cœur, mais c'est une cartésienne, voilà, dans l'esprit, quand je me suis, avant de me réveiller, elle me dit, Tatane, Tatane, elle m'a toujours appelée comme ça depuis toute petite, Tatane, Tatane, il faut que tu bouges, fais un signe pour montrer que tu es vivante, fais un signe, parce que sinon, trachéotomie, la trachéo en soi, c'est un trou là et ça vous permet de respirer parce que j'avais pas de force suffisante pour respirer. Mais il peut y avoir des séquelles en fait, on peut le garder longtemps, très longtemps, voire très très longtemps, le tube, si on n'arrive pas à reprendre. Et donc je sais que ma famille ne voulait pas la trachéo. À force d'être explicité par les médecins, ils ont dit, bah, si c'est la seule manière pour qu'elle revienne, on va la faire. Mais avant même que je ne subisse la trachéo, ma sœur qui tente une dernière fois, Tatane, fais quelque chose, réveille-toi, ils vont te réveiller, fais quelque chose. Et je l'entends dire ça. Et alors, là, quand on tourne la tête, c'est pas difficile, en soi. Mais là-haut, je me vois, et il y avait Marie, et je pleure, et je fais. Mais alors, je vous assure que, la vitesse, elle peut être très réduite. Hein. J'ai mis du temps pour moi. C'est spectaculaire le temps qu'il m'a fallu pour tourner un tout petit peu la tête. Et ma sœur et moi qui sommes proches a compris que là je voulais dire quelque chose. Elle a dit, non, non, ma sœur, elle va se réveiller, ne lui faites pas la trachéo. Elle est dans le médical, donc je pense qu'elle savait ce qu'elle disait. Moi, je ne me serais jamais permise de dire ça, vous voyez, parce que je ne m'y connais absolument pas. Et l'infirmière a du coup appelé le médecin, ils ont fait le 6e réveil. Donc 6e réveil, moi j'étais là avec Marie, avec toutes ces volutes de prière. Et Marie qui me dit, donc qui m'a dit, ce n'est pas votre heure Ingrid, témoignez, témoignez, témoignez. Et il y a mon père qui était dans le havre de paix, là dans le paradis, si tant est qu'on puisse dire droite et gauche. Là-haut, vous n'avez pas les mêmes repères spatiaux, vous n'avez pas les mêmes repères temporels. Ce que je sais avec certitude, c'est qu'à chaque fois qu'il fallait que j'intègre mon corps physique, j'avais un choc spatial. En tout cas, quand je remontais, il y avait bien quand même droite et gauche, du noir et du blanc. Des gens qui souffraient et des gens qui ne souffraient pas. Et de fait, au 6e réveil, donc les médecins viennent, ils font le 6e réveil, et là je reviens, et Marie qui avait dit, ce n'est pas ton heure, témoignez, 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 et que mon père m'a poussé, parce que vous savez, vous êtes bien, vous avez tellement souffert que vous avez plutôt envie de rester avec votre grand-mère, votre père. Moi je m'étais dit, je m'abandonne totalement. Je savais que tout le monde souffre à côté, mais je me suis dit, c'est pas de l'égoïsme, c'est que juste que je suis allée jusqu'au bout et je pouvais pas plus. Et du coup, attends, qu'est-ce que je voulais dire là? Je suis arrivée au 6e réveil. Mon père, ah ouais, voilà. Et donc mon père, parce que j'avais du mal à repartir, à replonger. Je vous ai pris l'image du plongeon, mais je ne le faisais pas naturellement. Et mon père est derrière moi, et d'un petit coup sec et rapide, quand j'ai décrit tout ça, ma mère me dit, ça, c'est complètement ton père. C'est un petit bonhomme italien, là. Il a fait ça pour que je tombe. Et moi, j'ai senti cette plongée très directe et très brutale, et il y avait Marie qui me donnait toute sa confiance, toute sa force et tout son amour qui n'ont pas de d'équivalent sur terre. Ça c'est, et je le répète, si il n'y avait pas eu Marie, la force de la prière et peut-être le geste de mon père, encore que bon, moi je l'ai senti physiquement, je ne sais pas si c'est ça qui a tout fait, mais en tout cas les 3 éléments rassemblés, s'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu la prière de tous les gens qui m'aiment ou de personnes même que je connais à côté, j'en serais pas là. Que Dieu m'en prenne, enfin, que Dieu fasse de moi ce qu'il veut, mais en tout cas, moi j'en serais pas là. La rencontre avec Marie, elle a été d'une... Aujourd'hui, en relecture, quand je disais notre Père qui êtes aux cieux, des fois ça me fait sourire intérieurement. Je me dis, mais en fait, t'es juste à côté, Seigneur, quoi. Ça, c'est la première chose que je me dis. Après, je repense à Bernadette qui a beaucoup témoigné par les actes, par le silence. Et je me dis, c'est peut-être ça aussi que tu peux faire, Ingrid, pour éclairer peut-être des gens. Sophie pourrait témoigner, mais d'autres aussi. Témoigner, c'est difficile, vous voyez, parce que vous prenez des risques. Moi, je me suis dit, bon, je vais avoir une assemblée peut-être de personnes chrétiennes, de personnes sceptiques, de personnes qui seront peut-être interpellées, ou de personnes qui diront, bon, n'importe quoi, peut-être aussi. Puis par ma posture de directeur, je me dis, j'ai peut-être pas le... Voilà, vous voyez. Mais finalement, j'ai longtemps prié, et non, peu importe, je témoigne. Voilà. Je témoigne parce que Marie, pleine de grâce, c'est le plus beau cadeau que l'on ait pour nous. Oui, pardon, c'est la messe, oui. Et bien justement, très belle suite de ce témoignage. Moi, je rends grâce et je vous remercie tout à chacun de ce temps que vous m'avez accordé, parce que c'est vrai que c'est ça peut aussi parfois faire écho à nos propres épreuves. On m'a souvent dit, c'est dans l'épreuve qu'on s'éprouve. Oui, c'est vrai, mais il y a des épreuves qui sont quand même chères à payer, quoi. Et merci infiniment. C'est vrai que je pourrais encore continuer, mais voilà, c'est l'essentiel, c'est Marie. Et Marie, merci à toi, Marie, pleine de grâce.